Sébastien Paour pour le journal. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir à tous. La fin des épreuves communes du bac à la rentrée. Le contrôle continue encore renforcé. Jean-Michel Blanquer ajuste sa réforme. Les détails dès le début du journal. Sur le papier, peut-être l'un des matchs les plus faciles pour les Bleus à l'Euro de foot. France-Suisse à 21h à Bucarest. Nous sommes avec les supporters et dans le stade. Au sommaire également ce soir, la chasse à la glu. Illégale pour le Conseil d'État. Le récit précis est glaçant. Hubert Caouissin au procès Troadec. Des chutes et Van Der Poel toujours en jaune. Bilan de la troisième étape du Tour de France en Bretagne. Et au téléphone sonne Fabienne, bilan des régionales et
oui,
des départementales.
Comment à froid effectivement ces résultats d'hier, nous aussi, ce que ça vous inspire pour l'année électorale qui s'annonce. La République En Marche et le Front National qui prennent une gamelle. Les régions qui ressemblent au fond à ce qu'elles étaient en 2015. On met tout ça dans le shaker au 01 45 24 7000.
Et c'est à partir de 19h20.
France Inter.
Le bac, nouvelle formule, fera donc encore plus la part belle au contrôle continu. À la rentrée, Jean-Michel Blanquer a ajusté sa réforme et envoyé ses décisions aux syndicats. Le ministre de l'Éducation nationale ne touche pas à la répartition 60-40. 60 pour les épreuves terminales, 40% pour le contrôle continu. Bonsoir Sonia Princey.
Bonsoir.
Mais il abandonne, Sonia, dans ces 40% les évaluations communes.
Oui, elles seront remplacées par les notes des bulletins. Alors, dans ces 40% de contrôle continu, on prendra en compte les moyennes de l'élève dans toutes les disciplines qui ne seront pas évaluées par des épreuves terminales, c'est-à-dire l'histoire-géographie, les deux langues vivantes obligatoires, l'EPS, l'enseignement scientifique en voie générale ou les mathématiques en voie technologique. Ça fait 5 matières, coefficient 6 chacune, sur les 2 années de première et de terminale. On arrive à 30% de la note du bac. À cela s'ajoutera l'enseignement de spécialité que les élèves abandonnent en première, c'était coefficient 5, il passe à 8, et enfin coefficient 2 pour l'enseignement moral et civique, discipline que le ministre veut mettre en avant. Une nouveauté, les options pourront désormais être créditées d'un coefficient supplémentaire de 4 si elles sont suivies en première et en terminale. Enfin, pour les examens, rien ne change, ni sur le calendrier, ni sur les modalités. Le français, les deux spécialités, la philo et le grand oral comptent pour 60% de la note du bac.
Ce contrôle continu fondé sur les bulletins, Sonia, on sait que c'est source d'inégalités.
Oui, la notation n'est pas la même, bien sûr, selon les professeurs, selon les lycées. Mais le ministre ne propose pas de garde-fou. Il renvoie à une concertation au sein des établissements. Le principal syndicat d'enseignants, le SNES, a d'ailleurs déjà réagi ce soir et dénonce un bac local. Finalement, le ministre impose son idée de départ, un contrôle continu basé uniquement sur les bulletins scolaires. Les évaluations communes sont lourdes à organiser. Et surtout, avec la crise sanitaire, le bac repose à 80% cette année sur les moyennes des élèves. Et l'année dernière, on était même à 100%. Donc l'idée de revenir à 40% de contrôle continu à partir des notes de l'année passe beaucoup mieux aujourd'hui.
Merci Sonia Princey pour ces derniers développements sur le bac nouvelle formule.
C'est une place en quart de finale que l'équipe de France va chercher ce soir à Bucarest.
8e de finale de l'Euro de foot face aux Suisses. A priori, des adversaires plus faciles que ceux des qualifications, Allemagne ou Portugal. On voit ça dans un instant avec Cédric Guillou. D'abord, dehors avec les supporters français, ils sont 1500. Bonsoir Thibault Lefèvre.
Bonsoir Sébastien.
Thibaut, adversaire donc à la portée des Bleus, c'est aussi ce que pensent nos compatriotes qui font le déplacement, qui ont fait le déplacement avec vous.
Alors pour tout vous dire, depuis le début de l'après-midi, les discussions ne tournent pas vraiment autour du ballon rond, car le vieux Bucarest est une discothèque à ciel ouvert. Ambiance gala de médecine ou soirée d'école de commerce, à vous de voir, sous une chaleur de plomb, encore 29 degrés ce soir. Et une mention particulière pour les DJ des bars locaux qui proposent une programmation très adaptée au goût des supporters français. Des sardines de Patrick Sébastien au lac du Connemara, de Michel Sardou, ça vous donne le ton. Paul et Antoine arrivent du sud-ouest.
Il y a beaucoup de monde, des supporters suisses, des supporters français, il y a de la bonne ambiance, les gens écrivent, ils chantent, ils sont contents, ça fait plaisir, les joies de l'Euro.
Et c'est génial de tomber contre la Suisse parce que on trinque ensemble, lui là-bas il m'a offert une bière, après je lui en ai offert une, c'est génial. Avec tous mes copains, on n'est pas des grands fans de foot, on est venus juste pour ça.
Juste pour faire la fête, donc ils n'ont pas le même maillot, mais ils ont le même goût pour les beuveries. Simon est suisse, il vient de Comté dans le Valais, et tout à l'heure il a chanté à tue-tête la Marseillaise.
Pour être fair play dans l'Euro, puis c'est l'ambiance qui est extraordinaire. Actuellement on a vécu une année et demie de merde, on n'a pas pu sortir, là on peut sortir, il n'y a plus le Covid, enfin il n'y a plus le Covid pendant ce match.
Là il n'y a pas de Covid. Hein.
Ouais, il y a presque plus, faudra attendre les tests, mais c'est juste une ambiance, et puis ça me fait plaisir de... pour partager avec des supporters adverses qui sont aussi francophones comme nous. Quoi. Et voilà.
Supporters suisses et français ont rendez-vous en très grande forme donc dans deux heures maintenant dans l'enceinte de la National Arena de Bucarest avec 25 000 spectateurs dont vous l'avez dit seulement 1 500 français. Et même si depuis tout à l'heure on les entend beaucoup dans les rues, ils n'ont jamais été aussi peu nombreux dans les tribunes depuis le début de l'Euro.
Les supporters français avec Thibault Lefèvre, merci et bonsoir Cédric Guillou.
Bonsoir Sébastien.
La Suisse n'a plus battu les Bleus, Cédric, depuis 92.
Oui, c'est ça, depuis le 27 mai 1992, c'était un match amical à Lausanne, ça fait donc un peu plus de 29 ans et depuis 92, eh bien, les Bleus ont rencontré 7 fois les Suisses en phase de groupe, que ce soit l'Euro, en Coupe du Monde ou même en qualification, sans perdre une seule fois. Ce soir, c'est à noter, ce sera le premier match France-Suisse en match à élimination directe. Alors maintenant, vous le savez Sébastien, un match comme celui-ci, eh bien, il a toujours son lot d'incertitudes, il y a des blessés notamment chez les Bleus, notamment les deux arrières gauches, Lucas Digne et Lucas Hernandez. Ça va obliger Didier Deschamps à revoir son organisation tactique. Trois défenseurs centraux alignés d'entrée, les habitués Kimpembe, Varane et puis Clément Lenglet, le défenseur de Barcelone. Pogba, Kanté en milieu de terrain et puis devant Griezmann, Benzema, Mbappé, Kylian Mbappé qui n'a toujours pas marqué lors de cet Euro. Et puis Thibaut l'abordait également à l'instant, l'incertitude concernant la météo. Il fait encore chaud à Bucarest comme ça avait été le cas en Hongrie, à Budapest pour les Français. On avait vu hein, que ça avait eu de l'influence sur la prestation des Bleus, sur leur fraîcheur physique. Est-ce qu'ils vont bien avoir récupéré, sachant que les Suisses ont eu 2 jours de plus que les Français pour préparer ce 8e de finale? Voilà des questions, des interrogations, même si évidemment sur le papier Sébastien, la France reste favorite de ce 8e de finale.
Début des réponses à 21h. Merci Cédric Guillou en direct de l'Arena de Bucarest avec Frédéric Cayrou. On joue aussi en ce moment depuis 18h à Copenhague, Croatie, Espagne. Un partout pour l'instant, on est dans les premières minutes de la seconde période.
La victoire de l'abstention au régional et départemental.
Autour de 66%, comme au premier tour, 15 à 20 millions d'électeurs ne sont pas allés aux urnes. Seul le référendum sur le quinquennat en 2000 avait fait pire sous la 5e République, 69,8% d'abstention à l'époque. Mais le gouvernement l'assure, il prend la situation au sérieux. Et pour l'entendre en parler, Simon Le Baron, il a fallu se tourner vers la réunion de l'Assemblée parlementaire franco-allemande.
Il est où, Castex ? S'interrogeaient certains marcheurs au lendemain du premier tour. Discret, le Premier ministre l'est toujours au lendemain du second. Pas un mot sur la déroute des troupes présidentielles, étrange pour le chef de la majorité. Tout juste une réaction à l'abstention catastrophique. En fait, une réponse à la question d'un député allemand d'extrême droite. Et encore, pour relativiser le phénomène.
Je remarque, vous savez, que nous sommes encore dans cette crise, que ce taux d'abstention avait déjà été très fort lors des municipales de 2020 et que finalement le taux d'abstention régionale en 2021 par rapport aux précédentes, cet accroissement de l'abstention est à peu près le même que celui que nous avons constaté pour les municipales de 2020 par rapport à celles de 2014.
Jean Castex assure tout de même prendre le sujet très au sérieux et il renvoie à Richard Ferrand, le président de l'Assemblée, qui fera des propositions avant la fin de la semaine pour revitaliser la démocratie. Cela tombe bien, Angela Merkel a une suggestion.
En Allemagne, il y a les votes par correspondance et au cours de cette pandémie, le taux de participation électorale était similaire au taux de participation électorale habituelle.
Ce vote par correspondance dont le ministère de l'Intérieur ne veut justement pas entendre parler. Jean Castex appréciera le conseil. L'abstention, ce qu'elle dit de l'état de notre démocratie, c'est la seule leçon que le gouvernement veut bien tirer de ces régionales, mais sans aller trop loin, visiblement.
La droite compte 7 régions, et voilà 3 de ses présidents qui regardent vers l'Élysée. Xavier Bertrand en tête, qui veut aller à la rencontre de tous les Français. Il a vu Emmanuel Macron ce matin sur ses terres des Hauts-de-France. Il appelle ses homologues Valérie Pécresse et Laurent Wauquiez à former une belle équipe avec lui pour 2022. La première verra après l'été. Le second refuse de la course de vitesse. Les LR tranchent la question de la primaire le 30 septembre. À gauche, 5 régions. Le PS déplore le plafond de verre, VERT, quand il y a accord avec les écologistes. Aucune région pour l'AREM, qui fait le pire score pour un parti au pouvoir. Le RN est aussi bredouille, même en PACA. Et puis au départemental, le PC perd son dernier bastion, le Val-de-Marne, qu'il dirigeait depuis 1976. Département enlevé par la droite et le centre, comme le Finistère et l'Ardèche à gauche depuis 23 ans. On fait le point sur tout ça à 19h20, au téléphone sonne.
Absolument, et en attendant peut-être la fin de la guerre autour de la chasse à la glu.
Chasse traditionnelle aux grives et aux merles qui sont piégées sur des tiges recouverte de colle et qui attire d'autres oiseaux. Le Conseil d'État juge la technique illégale et contraire au droit européen. Le président de la Ligue de protection des oiseaux est évidemment satisfait. Alain Bougrain-Dubourg avec Sandy Dauphin.
En fait, on était le dernier pays d'Europe à pratiquer ce piégeage à la glu. Après l'Italie, l'Espagne et Malte, 40 000 oiseaux qui se faisaient officiellement capturer chaque année. Alors, ça générait d'une part une maltraitance inacceptable à l'égard des oiseaux, et puis ensuite un prélèvement non sélectif. C'est ce qu'a souligné la Cour européenne de justice, et c'est ce que confirme le Conseil d'État. Ça nous invite à poursuivre avec d'autres pratiques qui sont complètement inacceptables. Et je pense notamment à la manière dont on écrase des oiseaux avec des pierres plates dans le Massif central, on en étrangle d'autres avec des collets dans les Ardennes, on est au 21e siècle. Il faut en finir avec ces chasses dites traditionnelles, ces méthodes d'un autre temps.
La soirée du drame au procès Troadec, soirée du quadruple meurtre de la famille en 2017 à Orvault, Hubert Caouissin, persuadé que la famille lui cachait des lingots d'or. Bonsoir Corinne Audouin.
Bonsoir Sébastien.
Depuis ce matin, Corinne, il raconte sans émotion, froidement, ce qui s'est passé il y a 5 ans.
Oui, depuis 9h ce matin, la cour d'assises est comme en apnée. Après la scène de crime, Hubert Caouissin raconte la suite du même ton monocorde. La nuit suivant le meurtre, il revient à Orvault, emmené par sa compagne, Lydie Troadec. Il décide de ramener les 4 corps chez lui dans le Finistère. Pourquoi ? Je veux tout effacer. Ce qui s'est passé à Orvault ne peut pas exister, dit-il. Il commence par Brigitte, il met un sac sur sa tête, n'arrive pas à la mettre dans le coffre. J'ai craqué, je lui ai parlé, je lui ai demandé pardon et j'ai pleuré. L'accusé relate une hallucination. Il a entendu Brigitte lui répondre « Je lui ai dit que c'était eux qui avaient commencé. Elle m'a dit qu'elle avait défendu sa famille. » Il fait tant bien que mal entrer les 4 corps dans la 308 du fils Troadec. Hubert Caouissin raconte tout, sans filtre. Comment dans sa ferme, il a découpé les corps, en a brûlé des parties dans sa chaudière, jeté d'autres dans les ronciers. J'avais un refrain qui me berçait, des phrases comme « Rien ne se perd, rien ne se crée ». Je ne ressentais rien, j'ai continué, dit-il, jusqu'à emmener les crânes qu'on n'a jamais retrouvés. Au final, il reste quoi de Pascal, Brigitte, Sébastien et Charlotte, demande la présidente. Hubert Caouissin a les yeux fixes comme une bête traquée. Il marque un long silence et répond peu de choses.
Corinne Audouin en direct de la cour d'assises de Nantes avec Stéphane Beaufils. Le procès se termine le 8 juillet. L'enquête classée sans suite sur les frais d'ambassadrice des pôles de Ségolène Royal. Le parquet national financier n'a relevé aucune infraction. L'enquête avait été ouverte après des informations de la cellule investigation de Radio France. Faire payer les tests pour inciter à se faire vacciner, piste suggérée par certains médecins et qui n'est pas écartée par le gouvernement, mais après l'été, la question pourra se poser à la rentrée, d'après le porte-parole Gabriel Attal. En Italie, pays qui a été le premier d'Europe touché par la pandémie, le masque n'est plus obligatoire en extérieur depuis aujourd'hui. Mesure bienvenue, surtout quand il peut faire plus de 40 degrés. Les contaminations sont au plus bas depuis l'automne en Italie et un tiers des Italiens de plus de 12 ans sont vaccinés. Situation bien différente chez vous en Russie. Bonsoir Claude Brouillot.
Bonsoir.
Moscou et Saint-Pétersbourg, Claude, affichent des records de morts quotidiens depuis ce week-end.
Oui, avec l'entrée en vigueur de nouvelles dispositions, on a vu aussi réapparaître à l'extérieur, devant les cafés, les restaurants, les fameux présentoirs, vous savez, disparus depuis juillet 2020 en Russie. Présentoirs qui proposent en extérieur à nouveau nourriture et boissons à emporter aux clients de passage. Car en dépit de la délivrance donc de plus de 2 500 000 passes sanitaires par la mairie de Moscou, eh bien les professionnels du secteur craignent une très large désaffection de la clientèle. Ceux, par exemple, que la vaccination rebute toujours malgré la propagation du variant Delta, ou encore ceux qui sont contraints au télétravail et ne sortent plus pour se restaurer. À Saint-Pétersbourg, où les gestes barrières ont été respectés de façon très irrégulière, des dizaines de milliers de supporters sont déjà passés par la deuxième ville de Russie à l'occasion de l'un ou l'autre des 6 matchs qui ont déjà eu lieu sur place et se sont de toutes les façons mélangés avec la population locale. Pendant ce temps-là, de son côté, le Kremlin rejette toujours l'idée d'un reconfinement général. Vladimir Poutine craint pour l'économie russe, fragilisée paralysés par 16 mois de pandémie et ils redoutent peut-être aussi la réaction d'une partie de la population à un peu plus de 2 mois des législatives.
Claude Bruyot en direct de Moscou, merci. Cette bonne nouvelle que nous signale Stéphane Capron en provenance de la préfecture du Vaucluse. La jauge du théâtre antique d'Orange est autorisée à passer de 3700 à 5000 places. Les chorégies peuvent donc mettre en vente plus de 1000 places supplémentaires pour le spectacle Samson et Dalila de Saint-Saëns du 10 juillet avec Roberto Alagna et Marie-Nicole Lemieux. Il affichait et complet ce spectacle jusqu'à présent. Encore 11 départements en vigilance orange aux orages ce soir, notamment sur l'est du pays. Il y a eu de grosses difficultés pour circuler dans le Puy-de-Dôme avec une coulée de boue sur le village de Sauvagnat-Sainte-Marthe. Il y a d'autres phénomènes très différents au Canada. Des températures dignes de Dubaï, 46,6 degrés hier en Colombie-Britannique. Les 45 de 1937 sont effacés et d'autres records pourraient tomber. Tout cela à cause d'un phénomène qu'on appelle le dôme de chaleur, phénomène qu'on voit plutôt dans les zones désertiques comme au Sahara. C'est ce qu'explique François Gourand, prévisionniste à Météo France.
Alors en fait, un dôme de chaleur, c'est une énorme masse d'air chaud et sec qui s'installe sur une région et qui bouge très lentement, très peu, et qui engendre donc des températures extrêmement élevées. Ce dôme de chaleur-là existe, par exemple, dans les régions désertiques, hein, pas très loin de chez nous, si je puis dire, au Sahara. D'une certaine manière, les canicules qu'on a également chez nous, qui viennent de Méditerranée, du sud de l'Europe, c'est également l'extension du dôme de chaleur saharien. Donc le phénomène en tant que tel est quand même classique. Mais c'est vrai que là, ce qui est beaucoup plus inhabituel, c'est de retrouver un tel dôme de chaleur, hein, digne du plein cœur du Sahara en été, à des latitudes très élevées, hein, puisque c'est le sud du Canada, c'est comme le nord de la France. Hein, donc c'est pour le coup, là, exceptionnel de trouver ce dôme de chaleur-là à cet endroit-là. Clairement, cela porte la marque du réchauffement climatique. Alors, dans quelle proportion, ça c'est les études d'attribution hein, qui établiront exactement dans quelle proportion c'est lié. Mais évidemment, quand on en est à battre des records de température de 3 à 4 degrés parfois, c'est clairement un marqueur du réchauffement climatique.
François Gourand, prévisionniste à Météo France, avec Sandy Dauphin. Ce devait être une étape presque banale, plate, entre Lorient et Pontivy. Bonsoir Fanny Lechevestrier.
Bonsoir Sébastien.
Troisième étape du Tour de France, arrivée au sprint, victoire du Belge Tim Merlier. Et deux mots à retenir Fanny, chute et abandon.
Et oui, malheureusement, ce sont les images que l'on retient ce soir, avec une petite musique aussi, celle de Radio Tour, qui passe parmi, vous savez, les suiveurs du Tour de France et à laquelle on ne s'habitue plus, qui nous fait froid dans le dos depuis le début de la course samedi.
Lopez pris dans la chute, Gaudu également pris dans la chute. David Gaudu pris dans la chute, chute à gauche.
Des chutes à répétition, encore trois, hein, difficiles à regarder et qui ont laissé sur le carreau deux favoris du tour. Primoz Roglic, cuissard laminé, fesse en sang et Geraint Thomas, épaule luxée et qui passe des radios ce soir pour savoir s'il va pouvoir continuer. Que dire également du sprinter Gad Elewan, resté prostré au sol, clavicule cassée, d'où le coup de gueule. Écoutez ce soir de Marc Madiot, le patron de la Groupama FDJ, au micro de nos confrères de France Télévisions.
Je perds famille. Il y a beaucoup de familles qui regardent le Tour de France à la télévision. Des mamans qui regardent le Tour de France à la télévision. Ben moi, ce soir, j'ai pas envie que mon gamin soit coureur cycliste professionnel. Il faut qu'on trouve des solutions. On peut pas continuer comme ça. C'est plus du vélo, là. Peut-être qu'il faut adapter le matériel autrement. Peut-être qu'il faut enlever des oreillettes. Peut-être qu'il faut faire plein de choses. Mais il faut qu'on le fasse. Parce que si on ne le fait pas, un jour, on va avoir des morts.
Des mots très forts, hein. Plusieurs coureurs, à l'image de Benoît Cosnefroy, ont également parlé d'un cyclisme devenu combat de boxe. Ils ont incriminé le tracé trop dangereux. La réponse du patron du Tour, Christian Prudhomme.
Comment pouvez-vous imaginer qu'on fasse des parcours, on se dira, bah tiens, si les coureurs tombent, c'est pas grave. Bien sûr que non. Les chutes principales se sont produites parce que des coureurs, à un moment ou un autre, par nervosité, par un problème de matériel, sont tombés. Il y a eu une autre chute, effectivement, avec un virage qui était serré. Mais il y aura des virages serrés partout.
Autre avis intéressant, Sébastien, c'est celui du Suisse Sylvain Dillier. Il contraste un petit peu. Lui n'incrimine pas le parcours, mais lance plutôt un appel aux autres coureurs.
Honnêtement, il faut aussi respecter les autres coureurs, pas seulement ses coéquipiers. Tout le monde est dans le même bateau, donc c'est clairement aussi ça qui joue un rôle.
Mais quand on voit comment Roglic a été éjecté du peloton, eh bien cet avis prend tout son sens. Roglic qui a peut-être déjà perdu le tour, Sébastien, relégué à 1 minute 21 du maillot jaune.
Pourtant, la journée avait bien démarré avec une fois de plus beaucoup de monde au bord des routes.
Oui, comme entre Lanester et Carvignac, où malgré la pluie, le fan club de Warren Barguil s'était donné rendez-vous en force. Et oui, c'est joyeux aussi hein, le Tour de France, Sébastien. Autre moment fort de la journée, c'était ce matin au village départ où les parents de Mathieu Van Der Poel avaient répondu à l'invitation de Radio France, l'occasion d'un beau moment d'émotion entre la maman de Mathieu, fille de Raymond Poulidor, au micro de Jérôme Cadet.
On est...
Beaucoup de joie, beaucoup de fierté et en même temps beaucoup de tristesse que mon père ne puisse pas voir ça. Vraiment des sentiments à l'extrême entre joie et tristesse.
Ce maillot jaune, c'est quelque chose auquel il pensait depuis longtemps. Il en avait parlé avec votre père.
Je ne sais pas s'ils en avaient parlé, mais mon père disait tout le temps qu'il aurait un jour le maillot jaune. Donc je pense qu'il a voulu vraiment tout faire pour honorer mon père et pour... Allez, ne pas le faire mentir. C'était vraiment une grande complicité qu'ils avaient tous les deux. Ils se comprenaient, ils s'aimaient beaucoup. C'était vraiment beau à voir. Ils se voyaient pas souvent, mais quand ils se voyaient, c'était vraiment très intense. Ils racontaient toujours à tout le monde, mon petit phénomène. Un jour, il prendra le maillot jaune sur le tour.
Oui, mon petit phénomène, il était passé hein, d'ailleurs Raymond Poulidor avec Mathieu Van Der Poel au village départ en 2014. Il l'avait déjà baptisé devant tout le monde comme cela. Ça restera aussi des images du Tour 2021, Sébastien.
Alors avant cela, avant l'étape de demain, quatrième étape, il y a un match de foot ce soir, huitième de finale France-Suisse.
Oui, vous vous en doutez, on en parle aussi bien sûr au sein du peloton et notamment des équipes internationales comme chez AG2R Citroën où le seul Suisse de la formation, Michael Char, est malmené par son directeur sportif Julien Jourdi.
Aujourd'hui c'est France-Suisse, c'est bien.
Ce soir effectivement on va à nouveau chambrer, j'ai pas de maillot dans la valise. Mais le cœur sera bleu, blanc, rouge. Je crois que la dernière confrontation, ça s'est soldé par un match nul avec la Suisse. Donc voilà, il ne faut pas faire trop les malins.
Tu sais, vous disiez toujours que je suis le petit Suisse, mais peut-être ce soir, on est le grand Suisse. 2-1 pour la Suisse.
Allez, je dis 4-1 pour les Bleus. Si tu perds...
Je lave le vélo.
On n'a pas mis...
Voilà, bonne ambiance, ça met au moins de l'animation, le match de football entre la France et la Suisse sur le Tour de France.
Fanny Lechevestrier en direct de Pontivy avec Lucien Lefebvre, merci à tous les deux. Et à propos de match de foot, 2-1 pour les Espagnols contre les Croates dans ce huitième de finale de l'Euro.
Merci beaucoup Sébastien Paour, bien sûr à demain. On reste ensemble, nous pour le téléphone sonne, on commente ensemble ce deuxième tour des régionales. Est-ce que ça nous apprend surtout pour ce qui va se passer derrière au 01 45 24 7000.